invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, tour de piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une émission qui reçoit ce soir Cédric Charbonnier, maître d'œuvre de son de feu Butters. Cédric revient cette année avec un nouveau projet pop au format plus réduit et une exposition dédiée au monde des concerts. Nous sommes ensemble et en direct tous les deux et jusqu'à 21h pour en parler.
Je suis très content de t'avoir déjà. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Tour de Piste.
Bon, de rien.
Alors, on va évoquer ton parcours à travers une playlist choisie par tes soins. Ouais. Voilà, alors la musique qui a construit ta culture musicale. Et on va ouvrir avec les Canadiens de Sum 41. Mais j'ai quelques questions à te poser avant qu'on attaque avec ça. Celle déjà de ton premier choc musical avant que tu te mettes à la musique.
Et bah justement, j'ai pas trop parlé de mon enfance, mais souvent c'est un peu ça. Mes premiers chocs musicaux, c'était quand on faisait la route en voiture pour aller en vacances dans le sud voir mes grands-parents. Et mon père, il mettait plein de musique, mais beaucoup de variétés françaises, du genre Eddie Mitchell, Dalida, Joe Dassin. Et moi, le truc qui m'a marqué, j'ai cette ligne de basse qui vient tout le temps, c'est la BO de Grease, Summertime. Et voilà, je sais pas pourquoi, mais ce titre-là, je l'ai toujours en tête, c'était un choc musical, entre guillemets. J'aime bien en parler parce que c'est toujours un peu... Les groupes, c'est toujours un peu prétentieux. Ils parlent tout le temps de leur influence du moment, en mode les influences qui sont un peu hype et tout. Mais je trouve ça cool de parler un peu d'influence dans...
Puis c'est pas l'influence la plus inavouable du monde, Grease.
Non, pas du tout. Moi, j'adore, hein, franchement. Mais ouais, souvent, quand on parle d'influence, on va parler des influences qui sont un peu, voilà... Qui font bien à dire, quoi. Moi, ouais. Je voulais parler de ça, ouais. Franchement, il y a ça. Et Eddie Mitchell... sur la route de Memphis, c'est deux titres qui m'avaient marqué quand j'étais gosse, quoi.
Alors on verra, on les retrouve pas forcément dans l'esthétique des groupes que tu as eu et puis ton dernier projet, ouais. Là, dont on parlera en deuxième partie d'émission. Donc on va ouvrir avec des Canadiens. Sum 41, je crois que c'est un groupe qui a marqué plutôt ton adolescence.
Carrément, toutes mes années de collège en fait. Mon frère lui écoutait plutôt du métal, néo-métal en mode Slipknot, Linkin Park et tout. Moi j'écoutais aussi un petit peu, mais j'étais plus du côté un peu pop-punk californienne, canadienne, en mode Sum 41, Blink 182, des trucs comme ça, Good Charlotte, et c'est un peu ça qui a nourri mes années.
On reviendra là-dessus, mais il y a dans ta playlist, enfin dans la dans une partie de ta playlist, il y a des influences qui sont très côte ouest et qui respirent bon les vacances. Et puis l'optimisme aussi, je trouve que ça te ressemble assez bien pour te connaître un petit peu. Contrairement à des groupes comme Linkin Park ou les groupes de la pré-punk, Cold Wave, etc. Il y a cette espèce d'énergie positive à en écouter Fiddler en introduction de l'émission. Et on va écouter Sum 41.
Avec plaisir.
Et puis tu nous reparles de tout ça après. It's increased 300% in North America and it's the second major cause of death in Canada. Perfection is my direction, even if that's all I had. It's not like I need no correction, I just know that life's not so bad. When will all my problems disappear? C'était Sum 41, le premier choix de mon invité Cédric Charbonnier. Donc un coup de cœur à l'adolescence. Je vais justement te parler de tes influences plus tard, un peu plus tard qu'à l'enfance. Ta culture musicale à l'adolescence, tu vas la construire avec quelle tendance du rock ?
À l'adolescence, après je vais plutôt m'orienter vers tout ce qui est anglais. Anglais, mais pas que. Mais en fait, c'est toutes ces générations de groupes un peu des années début des années 2000. On va dire tout ce qui est les Cooks, les Arctic Monkeys, les Baby Shambles, MGMT, les Strokes. Tout ce côté-là, en fait. Ce côté toujours pop, mais toujours un peu rock, mais sans aller trop dans le rock quand même. Assez mélodieux, quoi. C'est ça qui va me bercer durant mon adolescence. Après, je vais écouter aussi un peu tout. Hein, y a plein de trucs. Je sais pas trop ce que je peux te dire, mais ouais, plutôt quand même Britpop, rock.
Mais ça, c'est des choses que t'as transposé après dans tes projets musicaux. T'as piqué, je sais pas, un truc. Tiens, ce plan de Sum 41, c'est bien.
En fait,
j'aime bien la base des Red Hot.
Je me dis jamais ça quand je compose. C'est toujours par accident. J'ai un riff, un truc en tête qui va arriver. Et souvent, ce qui est marrant, c'est qu'après avoir composé le morceau, je me fais une sorte de psychanalyse de moi-même, de ma manière d'avoir composé. Je me dis, ah ouais, en fait, t'as fait ça parce que ça ressemble à ça ce que t'as écouté. T'as fait ça, mais je me dis pas sur le moment, je suis pas tellement un technicien de la construction de la musique. J'ai pas une suite d'accords que je vais faire et tout. C'est
un truc d'instinct pur.
Très
quoi.
D'instinct, très spontané, ouais, mon écriture. Donc, mais après, c'est très drôle parce que par exemple, tous mes titres font 2 minutes, 30, 3 minutes. Et j'ai écouté Sum 41 et les Cooks des années. Leur format de morceau, c'est des titres très rapides, très punchy, très mélodieux, avec des formats très courts. Donc, du coup, ça a quand même. Mon inconscient construit mes chansons grâce à tout cet héritage, quoi.
On va écouter un groupe anglais, je dis pas de bêtises, hein,
c'est
pour
ça.
Le deuxième choix de ta playlist.
Les Cooks.
Et le morceau s'appelle Always Ray, I Need to Be Les Cooks dans l'émission Tour de Piste. She just don't care. Yeah.
guess I always think that I know how to be, but I always thought I would end up with you eventually.
C'était les Cooks pour le deuxième choix de Cédric, mon invité de ce soir. Autre question, Cédric, la musique, tu commences à quel âge ?
Alors en fait, moi j'avais un père qui était très sportif, donc j'ai fait plein de sport étant jeune et tout. Mais j'avais quand même droit, il était quand même aussi ouvert à la musique, donc j'ai commencé très tôt. J'ai commencé en éveil musical, j'avais 6 ans. J'ai fait 2 ans d'éveil musical, après à 8 ans, on avait, au bout de 2 ans d'éveil musical, on devait choisir un instrument. Je savais pas trop quoi choisir, moi tout me plaisait. Et j'ai pris le truc le plus chiant pour une maison, c'est une batterie. Donc j'ai commencé par la batterie. Mes parents étaient pas trop ravis.
C'est une sorte de vengeance, non ?
Ouais, je sais, ouais, peut-être, ouais, c'est une vengeance inconsciente. Et du coup, j'avais un prof qui était assez dur, mais qui était cool. Par exemple, j'ai joué pendant un an et demi que sur la caisse claire. J'avais pas le droit de jouer sur les autres éléments de la batterie. Et j'ai eu une batterie qu'au bout de 2 ans. Donc c'était un peu un truc pas militaire, mais c'était quand même assez intensif pour commencer, avec la méthode que tout le monde connaît, la méthode Agostini, qui est une méthode surréputée, qui est hyper bien. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et après, la guitare, j'ai commencé très tard, à 18 ans. C'était mon cadeau de mes 18 ans pour ma grosse soirée d'anniversaire. Voilà.
Ah, ok. Et alors, on va parler évidemment de ton ancien projet, Butters, hein, qui m'avait beaucoup plu, dont j'ai trouvé une comparaison avec Ty Segall, le fait sans doute aussi que tu chantes derrière les fûts, comme on dit.
Ouais.
Le fait de jouer de la batterie et de chanter en même temps, est-ce que ça donne quelque chose de... C'est une difficulté particulière, ça donne un son particulier à la musique ? Parce que c'est assez inhabituel quand même.
Moi en fait, c'est bizarre, mais comme je l'ai dit, je me sens plus à l'aise à chanter et jouer de la batterie parce que je suis batteur de base, donc pour moi c'est plus instinctif de chanter derrière la batterie. Après, ce qui est différent, c'est bien sûr sa posture de chant, parce qu'on a moins de souffle, et aussi ce qui est aussi en termes de technique, aussi de prise de son en live. Moi j'ai quand même une frappe assez lourde, et en fait des fois j'ai pas une voix qui transperce vraiment le mix dans... dans le live, et du coup ce qui fait que ma voix des fois elle se perdait un petit peu, donc c'est un peu complexe pour le live.
Oui j'imagine,
à part si t'as vraiment une grosse voix de mec qui fait du hardcore ou un truc comme ça, mais moi j'ai plutôt une voix assez fluette et mélodieuse,
pop
qui, voilà,
une voix pop. Voilà. On va enchaîner sur ton deuxième choix musical, il s'agit de Twin Peaks. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur Twin Peaks avant qu'on lance le morceau?
Twin Peaks, je m'en rappellerai encore longtemps parce que c'est le dernier concert que j'ai vu à l'abordage avant que ça ferme. Et voilà, c'est le concert qui m'a... En fait, au départ, Butters, ça devait s'appeler Colcutter, et ça devait être un duo plutôt pop-folk. Et avec ce concert-là, je me suis dit, en fait, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire et tout. J'avais des compos un peu plus garage, et c'est là où, du coup, le projet Butters a commencé à vraiment à germer. Voilà. Avec ce concert-là, Twin Peaks, avec Big Moon aussi, qui était en première partie, un groupe de nanas anglaises qui était vraiment cool.
Ouais. Donc tu fais partie de cette génération de musiciens hébroïciens, enfin hébroïciens t'es de Saint-André, donc quasiment
ouais,
hébreux,
adopté.
Qui a eu envie de jouer grâce à la programmation de l'abordage et du rock dans tous ses états à l'époque.
Ouais, bah oui, carrément, ouais.
Et ben on va écouter Twin Peaks et puis on se retrouve dans quelques minutes. Et c'était le téléphone du groupe Twin Peaks, donc, que tu avais vu à l'abordage. Ouais. Donc, t'es originaire d'Evreux, on vient de le dire, ou presque.
Ouais,
une ville dont l'histoire est liée à la culture rock. Ça, ça a joué d'autres rôles, toi, dans ton, enfin, non seulement dans ton envie, puis dans le, enfin, le fait qu'il y ait des salles de répétition, de l'accompagnement, etc.
Ouais, bah carrément, ça motive aussi à monter son projet, à développer ses envies et autres. Et puis même, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ce qui était à Evo avant avec l'abordage et autres, c'est le côté famille culturelle aussi, que c'était cool, quoi. Moi, j'étais jeune, j'avais pas trop d'expérience dans le domaine culturel. J'ai fait un stage là-bas, j'étais bien accueilli. Ils m'ont appris plein de trucs aussi sur comment une manifestation ça se tenait, comment même d'éthique humaine aussi, comment fallait être dans... Moi je suis arrivé l'année où justement c'était un peu le cataclysme pour le rock, donc j'ai beaucoup appris aussi de comment gérer ce genre de situation et autres, et c'était chouette quoi, c'était vraiment c'était autant une belle aventure rock, musicale qu'une aventure humaine quoi,
ouais,
c'est
ouais.
Ça qui est...
Et
qui,
c'est
qui,
essentiel.
Et aujourd'hui ça n'existe plus beaucoup quoi.
Il faudrait espérer que ça revienne. Et en tant que musicien, alors, quelle est ta posture, toi, en tant que spectateur? Ça donne un autre angle. Enfin, t'as un regard plus critique, t'es...
Bah, en fait, il y a une période où, justement, là, quand, par rapport à cette expo, où j'allais voir un peu... j'avais besoin de voir tout et n'importe quoi. Je suis allé voir vraiment plein de groupes différents, comme, je sais pas, Gogo Pingouin, qui est un groupe plutôt jazz, comme Agnès Obel, qui est un truc plutôt pop, assez lyrique,
un
même.
Peu folk,
lyrique, ouais, folk, ça voilà.
Peut rappeler même le folklore anglais.
Ouais. Carrément, mais des trucs aussi comme... je sais pas, mais plein de trucs vraiment divers et variés. Et moi, en fait, maintenant, ce que je recherche beaucoup quand je vais voir des groupes, c'est essayer d'avoir des groupes qui restent encore un minimum spontanés sur scène. Mais ça n'existe plus beaucoup aussi.
Bah, il y en a, ils sont pas forcément majoritaires dans les médias, mais...
Oui,
mais
c'est ça.
J'espère qu'il y en a.
Ouais, mais ou même ceux qui font tourner. Mais je veux dire que maintenant, en fait, pour avoir été, entre guillemets, un petit peu accompagné, bah tout est préparé en fait sur scène, tout de A à Z, hein, que ce soit la scénographie, que ce soit ce que tu vas dire entre les morceaux, que ce soit ce que tu vas faire avec le public après ou avant, et il y a plus de marge d'erreur, il y a plus de
il y a moins de place pour l'inattendu.
Voilà, c'est ça, il y a moins de place pour l'inattendu, et en fait après quand on est juste un simple spectateur et qu'on n'a pas ce bagage là, tout nous paraît merveilleux, mais une fois qu'on a ce bagage là, on se dit ah ouais, en fait ouais, il a préparé ça comme ça, et quand tu revois, c'est déjà arrivé de voir plusieurs fois le même groupe sur une tournée, t'as des mecs, c'est au mot près quoi.
Ouais.
Et tu dis putain, ça me fait chier d'avoir acheté une place pour ça quoi. Après ça veut pas dire que c'est pas bien musicalement, il gère de ouf hein, musicalement,
ouais, c'est cool.
Hein, c'est mais il y a ce petit truc de magie qui tu dis bah merde.
C'est sûr qu'avec les concerts de punk dans les années 80 en France, on savait jamais ce qui allait se passer.
Ah bah ouais. Mais ouais, c'est un peu ça. Après maintenant qu'est-ce que je vais voir en ma place de spectateur? Moi après j'ai une position de spectateur un peu comme si je vais au cinéma. Je suis pas très quelqu'un d'expressif devant un concert. Je vais un peu bouger, un peu tortiller, mais je suis pas le mec qui va pogoter et autres. Et j'ai vraiment besoin d'être emmené ailleurs et d'être. Et j'aime bien les postures de groupes qui ne jouent pas pour public. Comme des groupes comme Parquet Courte, par exemple, que je suis allé voir.
Ouais.
Ils s'en foutent. Ils viennent pas jouer pour le public, ils viennent jouer pour eux. Mais c'est très bien.
Ouais,
ou par exemple, un des concerts que j'ai adoré au 106, c'est Moulin Dings. Il y a une nana à la guitare, elle a passé tout le concert. À regarder le fond de la salle, regard froid, et à jouer. Elle a pas mis une note à côté, rien. Il y a vraiment une posture particulière, quoi.
Ouais, puis alors le rock, pour revenir un tout petit peu sur l'histoire du rock, ça fait penser au Velvet Underground, et dans les années 60, parce que les artistes qu'on évoque, là on a parlé de Ty Segall tout à l'heure, c'est très inspiré du rock garage du milieu des années 60 de la côte ouest américaine. Le Velvet jouait d'où ils étaient new-yorkais, ils jouaient carrément d'où à la scène.
Ouais,
donc c'est quelque chose de très statique. Et ça peut être très froid, et pourtant il se passe un truc, quoi.
Bah, c'est ça.
Il n'y a rien de préparé. C'est genre, je vous déteste, mais vous allez adorer mon concert.
Mais c'est un peu ça. Mais moi, j'aime bien cette posture-là. Alors, il y en a beaucoup qui prennent pour de la prétention, mais pas forcément. C'est juste parce que.
Ça peut être de la mise en scène aussi, hein, tout simplement.
Ça peut être aussi ça peut être aussi travaillé. J'espère pas. Mais ça peut être aussi travaillé. Mais moi, je comprends totalement ce genre de fonctionnement, parce que je pense que quand on monte sur scène, si on commence à se dire, on monte sur scène pour jouer en tant que musicien pour le public. C'est que ta posture en tant que musicien qui compose et autres, elle est pas bonne. Faut y penser un petit peu quand même, parce qu'il y a des des enjeux techniques et autres qui font qu'il faut quand même que tu y penses un peu pour le public, mais faut pas que ce soit totalement dédié au public.
En étant généreux quand même, je pense qu'il faut pas être soumis au désir que le public ou les producteurs ont pour le groupe.
Mais moi par exemple avec Butters, je suis un très gros traqueux de scène. Moi je suis anxieux maladif de ça.
Bah, à la radio ça s'entend pas hein, que tu sois anxieux en tout cas.
Non à la radio ça va parce que c'est pas visuel la radio, je sais pas comment dire. Mais et du coup en fait moi j'avais une posture sur scène. Que, comme ça, que je joue pour moi, je joue pas pour les autres. Et limite, j'allais un peu. J'étais un peu froid et un peu taquin avec le public parce que. Je vais pas dire que le public m'emmerdait, mais ça m'emmerdait parce que ça me stressait, tu vois. Et du coup, il fallait que je trouve un truc pour pas y penser, quoi. Et j'avais une posture un peu comme ça, où au départ, je m'en foutais un peu. Je préparais rien, j'improvisais.
Pour t'avoir vu jouer au cube, moi j'ai trouvé généreux, enfin toi et les deux autres membres du groupe avec Butters. On va continuer la playlist parce que le temps passe. Ouais. Cédric, on va passer chez les petits Français de Phoenix, très pop eux aussi. Ouais. Thank you. Et c'était les petits Frenchies de Phoenix. Alors là, on est toujours sur de la pop avec de l'électro aussi. C'est la musique, enfin le dispositif électronique, c'est des choses que tu aurais envie d'incorporer dans tes projets artistiques?
Bah, j'y réfléchis. Pas... Là, tout doucement, je commence à mettre un petit peu des petites nappes de synthé et tout, mais ça reste encore léger. Je veux pas trop que l'électronique prenne trop de place. Je suis musicien, je suis batteur de base et rien qu'à la boîte à rythme, j'ai encore du mal à me dire que je vais mettre de la boîte à rythme. Je suis très attaché quand même au son acoustique.
Au son acoustique, oui, brut.
Mais pour Phoenix, là, comme je mettais là, sur mes petites notes, mais c'est vrai que pour moi, ça reste quand même le meilleur groupe français international de pop pour moi, vraiment. Je sais pas, ils ont vraiment leur son à eux, leur mélodie, ça reste. Ils arrivent toujours à bien se renouveler sur les albums et puis la production est vraiment cool. Hein, donc
Puis pour le coup, c'est un style très Frenchy, moi je trouve. Enfin, toute la, même s'ils font pas forcément partie de la French Touch, mais
c'est
il
ça.
Y a vraiment un truc
ça qui est intéressant.
Typiquement français hérité de la nouvelle vague, de enfin, toutes les bandes originales de films et tout. Tu retrouves cet état d'esprit-là un peu léger.
C'est très Frenchy, mais ils ont pas pris la vague justement trop French Touch, un peu pas radiophonique, mais un peu trop hype justement. Ils ont leur son à eux, donc ça qui est cool quoi.
Ouais. On va terminer là, avec Butters quand même, parce qu'on parlait de ouais. La Normandie, de la petite famille. Graphisme mastering, c'était aussi une affaire locale pour la pochette de Butters.
Carrément. Et bah pour la pochette, c'est Yann Gryas qui faisait partie de Alice Goon.
À l'époque, ouais.
Et maintenant qui fait partie du Gouassi des conservateurs. En fait, une fois, il a fait une exposition à MJC quand j'étais en service civique, là, je travaillais à MJC. Et du coup, on s'est bien entendu, on a parlé de musique à fond, et puis comme ça, je suis lancé, bah écoute, ça dirait de faire une séance photo et tout pour le groupe, puis ça s'est bien passé, puis après il a fait la pochette, et j'aimais bien son esthétisme et tout de ses projets photos et tout, donc ça a bien matché. Et après, pour le reste, à l'époque, on avait enregistré avec Adrien Dépiné de Mankins l'EP, et le mastering, on l'a fait par Cédric Moglia, qui joue dans Carton. Qui est hyper cool. Et du coup, c'est lui qui m'avait dit, un peu comme toi aussi, que Butters, ça ressemblait à... Il y avait un côté un peu...
Tasty
Ghoul. Et ce qui est assez drôle, comme je te disais tout à l'heure, c'est que moi, à l'époque, là, où j'ai composé pour Butters et tout, j'avais encore jamais écouté Tasty Ghoul.
Et ça, je trouve ça incroyable.
Et voilà. Et j'ai écouté après avoir composé l'EP, quoi. Je fais, ah ouais, effectivement, c'est cool, en fait.
C'est une comparaison plutôt sympa. Hein.
Ah ouais,
c'est quand même un des avec Parquet Courts.
Moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour ce que je fais en tant que musicien. Donc, dès qu'on me fait un compliment sur ma musique, moi, ça me va.
C'est un des musiciens de rock les plus intéressants de la planète en ce moment.
Ouais, non,
on parlait des Parquet Courts tout à l'heure. Il y a les Fat White Family qui sont énormes, Stephen Mott. Il y a un groupe qui va arriver qui s'appelle Fontaine d'ici aussi, qui est très bien. On en reparlera sans doute aussi à Principe Actif. On va continuer avec ta playlist avec un groupe qui s'appelle The Voids. Et puis on se retrouve dans quelques minutes.
Ça marche.
Yeah.
invité, une playlist, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Et mon invité ce soir dans Tour de Piste, c'est Cédric Charbonnier pour parler de son parcours artistique et pour parler aussi de son projet d'exposition Playlist 93. Avant de parler de Playlist 93, quelques mots peut-être sur ce groupe The Voids.
Bah, c'est vraiment le concert d'année pour moi. Je les ai vus au Pitchfork Festival à Paris. Et en fait, c'est le side project de Julian Casablanca avec le groupe The Voids. Et du coup, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est toujours des musiques assez pop, comme on entend. Mais beaucoup de ces musiques pop, ils s'amusent un peu à les déconstruire, les démolir, les salir quand on écoute dans l'album pour rendre quelque chose de plus indé, un peu plus intriguant, un peu plus effrayant même dans certains trucs. C'est une exploration, je pense, c'est ce qu'il n'a pas pu faire avec Estros qui va plus loin, donc c'est plutôt cool, c'est vraiment intéressant.
Ouais, c'est l'avantage des side projects, c'est toute la frustration qu'on a accumulée dans un collectif, où tout ce qu'on n'a pas pu faire, on peut le faire après, on le verra après en fin d'émission, en dernière partie d'émission avec ton projet, mais on va revenir sur cet autre fameux projet qui est Playlist 93. Alors, c'est quoi au juste Playlist 93?
Eh ben, en fait, c'est une exposition sur des affiches, lithographies et vinyles de concerts. Donc en fait, j'avais tout ça accumulé chez moi, et puis mes amis ils passaient souvent chez moi, et j'ai des tas d'affiches qui étaient entassées, et puis ils me disaient « c'est dommage que tu laisses ça un peu traîner, et voilà, faudrait que tu les encadres et tout ». Et du coup, je me suis dit « quitte à les encadrer, j'ai proposé déjà à quelques personnes et tout, à MJC de Saint-André, à MJC et tout, je dis « pourquoi pas en faire une expo justement, ce serait chouette pour vraiment, le but de l'expo c'est… » avoir un moment de partage, de discussion, où on peut justement discuter chacun de ses influences, des artistes qui vont être affichés. Parce qu'en fait, on ne prend plus le temps vraiment de parler de tout ça en direct, quoi.
Non, mais notamment avec les réseaux sociaux, Internet, on a tendance à plus parler en direct.
C'est ça, donc faire un petit moment comme ça, convivial, où on partage ce que les gens vont aimer d'expo, ce qu'ils ne vont pas aimer, et avoir une discussion intelligente, c'est-à-dire moi je déteste quand quelqu'un me dit j'aime pas l'artiste, c'est trop nul. Ouais, ok, moi ça me dérange pas que t'aimes pas, par contre je veux que tu m'argumentes ton truc, c'est la ligne de chant qui va pas, c'est sa voix, c'est la basse, c'est machin. J'aime bien avoir une discussion intéressante et enrichissante pour tout le monde, quoi. Donc voilà, j'espère que justement ce petit moment d'exposition là, ça va permettre de créer des débats autour de groupes, quoi, d'influence musicale.
Et à Saint-André, c'était bien reçu?
Mais carrément. Alors j'étais un peu étonné parce que Saint-André, y a pas... la médiathèque déjà c'est pas un lieu qui est hautement fréquenté, mais en fait il y a quand même un groupe de personnes un peu plus âgées que moi, on va dire, pour être gentil.
Le rock, j'allais te le dire, hein, le rock à guitare, enfin parce que moi je suis beaucoup plus âgé que toi, le rock à guitare, je trouve que c'est, et ça c'est génial, c'est un vieux truc le rock, hein, ça a 50-60 ans. Mais je vois, alors il y a toi, il y a évidemment les Metro Verlaine, il y a les You Said Strange, il y a toute cette jeune génération qui s'est appropriée, enfin il y a une nouvelle scène rock, et elle croise les générations, c'est-à-dire que on se retrouve dans des, notamment on va reparler aussi de l'association Venus in Fuzz, qui tient assez haut le flambeau de l'histoire du rock hébreuicienne, avec un rock indépendant, sans concession, assez brut. Eh ben, on se retrouve avec des gens de 20 ans. Moi, j'étais voir Idol samedi soir au 106. Il y avait des gens de 20 ans et puis il y avait des gens moi de plus de 40 ans qui partageaient une passion commune avec plusieurs générations d'écart. Ça, je trouve ça assez super.
Ouais, je devais y aller à Idol, mais j'étais malade, mais apparemment, c'est chouette.
C'était très, très bien. Et puis, alors, il y avait vraiment, j'ai vraiment vu, moi, des très jeunes gens. Et puis, et puis la génération d'anciens amateurs de punk, enfin, d'amateurs de punk et de rock à guitare de 40, 50 ans et plus.
Ouais, puis à Rouen, il y a quand même beaucoup, il y a plus de jeunes et plus de jeunes aussi qui ont cette démarche-là de conserver cette âme un peu rock et tout. Donc, c'est vrai que, je pense que ça va être bien. Bah, c'était complet d'ailleurs, de toute façon.
C'était complet. Et en plus, c'est étonnant salle, pour un groupe comme Idols de faire complet dans la jauge qui est immense du 106.
Dans la grande salle. Ouais. Moi, je pensais que c'était complet dans la petite salle et j'ai vu que c'était à grande salle. C'est chouette, quoi. C'est encourageant, quoi.
Que les discours sont, sont assez anti-capitalistes, plutôt écolo, très positifs pour les punks. On va enchaîner puisque le temps passe, Cédric, avec quelques mots peut-être sur ton choix suivant, c'est Omni.
Alors, Omni, en fait, moi, j'ai découvert avec un groupe qui s'appelle... je sais pas si on dit à chaque fois Delancey ou Delancey, un groupe de Rouen. C'est l'ancien guitariste de Mannequins, Vincent. Et je sais que j'adore ce groupe-là. Pour moi, c'est un des meilleurs groupes indie-pop noise normand, clairement.
Oui, on a une très belle scène en Normandie.
C'est assez à écouter. Delancey, moi, j'adore. Et en fait, dans ses références, il y avait Omni. Et moi, je suis un peu, insomniaque. Et du coup, je passe beaucoup de temps sur YouTube et tout. Et là, du coup, j'ai écouté ça et j'ai trouvé ça hyper cool parce qu'il n'y a qu'un guitariste, un bassiste, un batteur. Et en fait, le mec joue des parties de guitare et t'as l'impression qu'il y a 2-3 guitares, ça change tout le temps, c'est hyper chouette quoi. Et c'était un des membres de Deer Hunter 2.
Le groupe Omni.
Ouais.
Grand coup de cœur.
Ouais,
et alors, je retrouve à quelques générations d'avant des similitudes avec le groupe Pavement, qui est très côte ouest, très rock indé, américain. Enfin, c'est carrément pas mal.
Ouais, mais ça ne m'étonne pas, hein, ça revient souvent ce côté, ouais, Pavement.
Alors là, c'est hétéroclite, hein, ta sélection. On a parlé de Playlist 93, toi parmi, l'émission n'est pas encore close, tes plus beaux souvenirs de concerts en Normandie ou à Évreux, ce serait, t'as parlé tout à l'heure de Twin Peaks,
ouais.
Ce seraient lesquels? Il y en a eu beaucoup.
En fait, c'est très difficile de définir un bon souvenir parce que, comme je disais, comme on en parlait, il suffit qu'une journée on écoute un disque, on est pas bien luné, on va pas bien l'écouter, et donc c'est une corrélation de plein de trucs un peu chanceuses. Mais dans les bons souvenirs que j'ai eu, Twin Peaks, c'était cool. Moi, je me rappelle quand même mon premier concert à l'abordage, c'était Pony Run Run. Après, une des plus belles découvertes, les deux plus belles découvertes que j'ai fait vraiment, que je connaissais pas quand j'étais allé au festival et que j'ai découvert sur le tas, c'était Crowd Control, un groupe australien de pop qui était hyper cool, et Kurt Vile, quoi.
Ouais, Kurt Vile,
ça me suit aussi quoi. Quand j'écoute Courtney Barnett et tout machin, c'est aussi une ligne directive dans ce que je fais en tant que musicien aussi quoi, qui m'a beaucoup influencé.
Et on va parler de ton projet donc Butters maintenant, c'est terminé. Oui. Butters est mort, vive Ed Yude. Donc ouais. Butters c'est un personnage de South Park.
C'est ça.
Donc à l'aspect gentillet, voire même naïf.
C'est ça.
Tu disais que peut-être tu pouvais te reconnaître facilement.
Mais
quand je dis naïf, dans le bon sens du terme, hein, dans ce type de personnage, dans un monde qui est assez cruel, le rock aussi, c'est un monde extrêmement cruel, très compétitif.
Mais de toute façon, je me suis toujours dit que dans South Park, moi, le personnage qui se rapproche le plus de moi, c'est Butters, quoi, clairement. Donc, et ma musique, c'est un peu ça. C'est le côté Butters, c'est le côté un peu poppy, tout gentil. Mais je fais quand même du garage, donc le garage c'est un peu le reste du monde de South Park, quoi. Donc je trouvais ça hyper bien la corrélation entre ce personnage-là et la
musique.
C'est
quoi.
Ça,
le filet de pop mélancolique et gentil au milieu de ce vacarme, ce cette bordel, agressivité, quoi. Parce que bon, c'est le garage, c'est aussi de l'énergie et de l'agressivité, évidemment.
Carrément.
Eddie Wood, est-ce que j'ai pensé, est-ce qu'il y a un clin d'œil au film des frères Coen, Big Lebowski? Je me suis posé la question en préparant l'émission.
Pas tellement, en fait. Je cherchais. En fait, c'était comme mon nouveau projet, c'est un truc un peu pop, surf, indé. Et en fait, pop, c'est populaire. Donc, je cherchais un truc un peu populaire. Et il n'y a pas longtemps, je suis retombé sur le film Hey mec, allez où ta caisse. Un film complètement débile avec Ashton Kutcher et un mec d'American Pie. C'est la génération American Pie, quoi. Et je trouvais ça. Et à un moment, ils disent Hey, dude, parce qu'il y a écrit dude sur leur veste derrière. Et je dis, bon, tiens, ça peut marcher, c'est cool, ça sonne bien, c'est un film populaire, c'est ma musique, c'est populaire, c'est simple, c'est un peu débile, donc ça a fonctionné. Quoi.
C'est la culture de l'Amérique, pas underground, l'Amérique, enfin la culture indépendante, quoi. La contre-culture américaine. South Park, c'était un peu la même chose aussi, enfin c'est carrément.
Ouais, moi, puis je suis très fan de tout ce qui est pop culture, donc voilà, ça correspond bien à ce truc-là.
C'est l'envers du rêve américain. Donc, Edude avec un V, hein, D-V-D-E.
Ouais, je pense que ça va rester ma marque de signature, ça. Je pense.
C'est pour des problèmes de référencement sur Internet ou c'est juste une petite fantaisie comme ça?
Butter, c'était ça, c'était pour des problèmes de référencement sur Internet, parce qu'il y avait déjà un groupe qui avait un U pour Butter, ça, on a mis un V. Et là, je me dis, wow, tiens, pour un peu comme, je sais pas comment dire, c'est un peu moche que je veux dire, c'est très moche. Pour quelque chose d'indé, mais comme une marque de fabrique, quoi. J'ai mis un V à Butters, donc je vais continuer avec Edude, donc voilà, c'est
okay. Juste ça. Qu'est-ce que tu vas garder de Butters dans ce nouveau projet Edude, et qu'est-ce que tu vas ramener de neuf dans ce nouveau projet?
En fait, je vais garder toujours ce côté très mélodique, pop dans les lignes de chant et tout, mais là, je pense qu'il y aura on va un peu abandonner tout ce qui est distorsion, et là, on va passer quand même à quelque chose de plus surf. Plus en référence à des groupes comme Always, comme des groupes comme Mothers. Donc là, ça va être quand même un peu moins brutal. Voilà. Je sais pas, j'avais besoin de. C'est un truc tout bête, mais comme on en parlait, mais j'ai eu pas ce côté garage et tout que j'ai apprécié beaucoup. Je sais pas, même de manière générale dans ma vie, j'avais besoin d'un truc un peu plus doux.
C'est une nouvelle étape, voilà. Puis ça se va bien.
Je sais plus quel con m'a dit ça en rigolant à un pote à moi. Il dit ah, c'est le pays de la maturité.
Alors, on va pas faire. Pour...
oui, parce qu'à mon âge, à 25 ans, j'ai plus de la maturité, putain, on est mal barré. Hein.
Garde. T'as le temps encore. Alors, on va continuer à dérouler la playlist avec Lille et Blanc, puis on parlera aussi un petit peu de la surf music, parce que la surf music, c'était la toute fin 50, début des années 60, ça n'a pas duré très longtemps.
Non.
Et en même temps, les ingrédients, enfin, les influences de la musique surf, on les retrouve encore aujourd'hui un petit peu partout.
Ouais, partout, ouais.
Il y a eu les Cramps à une époque, dans les années 80, même il y a eu Best Coast, il y a eu...
Ouais, non, franchement, ça reste... Il y a encore des signatures, comment, en termes de son et tout, qui se retrouvent partout, quoi.
Ouais.
Ça, notamment la Spring Reverb, quoi, c'est le son, guitare...
Et ben, on va pas écouter de musique surf, on va écouter Lily Blanc, Bignou. Et puis
ouais, une petite voilà. Découverte sur Internet comme ça, très bien.
Oh,
Et c'était beaucoup de douceur avec Lillet Blanc, c'est bourré de réverb. C'est très charmant, c'est
vrai. Carrément, ouais. Et je suis très fan. En fait, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez fan d'Always et j'adore ces petites voix de nana comme ça, très surf, très. Qui fait très un peu, ouais, un peu ce côté américain, pas glam, mais glam ancien cinéma. Je sais pas comment dire ça, mais il y a un peu ce côté-là, un peu vintage qui est cool. Et c'est vrai que quand j'écoute tout ça, je me dis. Ça fait des années depuis que j'ai commencé à écrire de la musique que je me. J'ai vraiment hâte un jour de trouver quelqu'un qui a une voix un peu dans ce style pour composer pour quelqu'un, quoi.
Bah, tu trouveras.
Ah, j'espère.
Ça existe forcément. Allez, on enchaîne, ça va être Rosemary, Fair Weather
Chemicals.
Rosemary Fairweather, c'était Chemicals, l'avant-dernier choix de mon invité Cédric ce soir pour parler de ses projets artistiques. Il va presque être temps de se quitter, Cédric. Oui. Des projets pour Edu, des EP, un EP, un
bah,
album.
Ça commence. Il y a des petits enregistrements qui commencent à se faire, droite à gauche. Je commence à réfléchir. Même au départ, c'était plus parti sur un one man band, mais je pense que ça va être quand même structuré avec un vrai groupe et des vrais musiciens, je pense. Donc voilà, je suis plutôt en mode. Dans mon côté autisme artistique, replié chez moi, à trifatouiller plein de trucs.
Tu parlais de ta relation
tout.
Avec le public tout à l'heure, et que la musique, c'est d'abord quelque chose qu'on fait pour soi.
Ouais, exactement. Ouais. En plus, comme le dernier projet, c'est pas trop bien fini, on va dire, en termes humains, là, j'espère ne pas refaire les mêmes erreurs, donc je vais beaucoup préparer ça avant de lancer ce projet.
Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, je te souhaite bonne route à ton projet.
Bah, merci.
On va te retrouver donc au Riff. Très
ouais,
bientôt,
c'est ça.
Avec le Playlist 93.
C'est samedi le vernissage à 18h à la MJC d'Evreux.
L'occasion pour moi de te remercier, Cédric.
J'espère que tu passeras.
Pour ta participation, je passerai avec grand plaisir. Ça m'étonnerait fort que je ne passe pas voir ce Riff, donc l'ancien abordage. Hein,
voir un petit jus d'orange Cora.
Avec plaisir. Donc, on parlait de Venus in Fuzz en cours d'émission. Venus in Fuzz, donc, il y aura un concert organisé par Venus in Fuzz au Cube. Ils auront carte blanche avec les groupes rouennais Steeple Remove et puis un autre groupe Weird Omen de 20h à minuit. À ne pas manquer, le 4 mai à la médiathèque d'Evreux, rencontre avec Stéphane Deschamps autour de son merveilleux livre Blues Power. Ce sera à 15h à la médiathèque d'Evreux le 4 mai. Un livre vraiment que je vous conseille.
Ok.
Un livre. Écrit en toute subjectivité sur la relation amoureuse que Stéphane Deschamps entretient avec cette musique. Ce sera suivi d'un concert de Tien The Groovebox à 17h à la médiathèque toujours. Un dernier merci Cédric.
Bah, merci à toi.
Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours, on se quitte avec Myth, pardon. Bonne soirée à toutes.
Why we love it, why we love it.